Agora Côte d'Azur présente Les copains d'abord.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Les copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Bonsoir.
Votre émission mensuelle dédiée à la bonne humeur. Vous l'aurez compris, c'est donc le moment pour vous de relâcher vos zygomatiques et d'oublier vos soucis sur le quai pour un voyage d'une petite heure dans le train du rire et de la positive attitude. Mais sans plus tarder, laissez-moi vous présenter une nouvelle fois l'équipage de ce train qui m'accompagne. À commencer par notre contrôleur. Tout comme le poinçonneur des lilas, il aime faire des petits trous partout, dans la vie comme dans les pages de Wikipédia, puisqu'il écorne chaque mois la bio des célébrités qu'il nous présente. À force de nous raconter des salades, il finira par se transformer en Batavia. C'est David. Bonsoir David.
Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons essayer de survoler la carrière immense d'Alain Delon.
D'accord, ben c'est une bonne chose et on a hâte de t'écouter.
Merci.
Toujours souriant, pimpant et éclatant, ils ont la classe, première classe, et avec eux, on est plus sur de l'Orient Express que sur du Ouigo. Ils vous accueillent pour un moment de détente au bar de notre train. Vous l'aurez compris, ils sont notre duo de barista. Et à défaut de vous réchauffer des places sous vide, ils vont ce soir cuisiner notre invité en lui posant des questions. C'est Carole et Hassan. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Ben nous, on est très heureux parce que ce soir, nous avons un invité prestigieux, un artiste, dessinateur, illustrateur et artiste sculpteur.
Christian. Voilà, que tout le monde connaît.
Je vais laisser un peu de suspense, allez, je dis maintenant.
Elle est capable du meilleur comme du pire, mais c'est quand même dans le pire qu'elle est la meilleure. Elle a l'air de rien, mais elle est capable de tout. Elle occupe un poste ô combien important dans ce train du rire, puisqu'elle vous astique ses insolites pour en faire de véritables petites perles. C'est en quelque sorte notre agent de propreté. C'est Laura. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Il manquait un poste, celui-là c'est pour toi.
Oui, je vois ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir Thierry. Ce soir, on bascule donc entre décisions brillantes et idées lumineuses entre les États-Unis et l'Europe.
Bon courage.
Merci, Laura.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Et oui, il manque toujours quelqu'un dans cette équipe qu'on n'a pas présentée.
J'ai tellement hâte.
Les présentations les plus courtes sont souvent les moins longues.
Bonsoir, du coup, Carole. Bonsoir, on se retrouve le mois prochain.
Et donc, simplement, comment appelle-t-on un homme beau, musclé, Carole, et intelligent à la fois?
Elle a quelque chose à me demander, je pense.
Est-ce que vous avez une idée, la team?
Ah non, c'est bon. Ça me dit rien. Thierry, peut-être?
Eh bien non, une rumeur. Bonsoir, Thierry.
Elle est pas mal, ça. Je n'ai pas vu arriver. Je vous proposerai, quant à moi, un peu plus tard, une chronique décalée sur l'actualité. Côté musique, la programmation sera orientée vers des tubes incontournables liés quand même à l'amour, puisque c'est le mois de février. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec David et son voyage au bout des mots.
Ce soir, dans Les copains d'abord, David dans Voyage au bout des mots.
Il était une fois Alain Delon, qui est de loin le dernier monstre sacré du cinéma. Alain Delon naquit le 8 novembre 1935 à Sceaux. D'ailleurs, s'il était né deux jours plus tôt, aurait-on pu dire qu'il naquit à Sceaux le 6 ? C'est sans doute pour cela qu'après avoir été renvoyé de plusieurs écoles, il décida de passer son CAP de charcutier pour reprendre le commerce de son beau-père, situé où, d'après vous ? Eh bien, à Bourg-la-Reine, de là venant sûrement son amour immodéré pour les femmes. Aventurier, à 17 ans, il effectue son service dans la marine nationale en Indochine, à Canary Bay, bien avant que les frères Sirkis ne l'empruntent pour leur groupe. Mais il y fait un très court passage, étant le chauffeur d'un général qui faisait 3 nuits par semaine la tournée des Pol Pot. Rentré en France, il a une relation avec Dalida, mais de courte durée, car il s'est rendu compte que sous un signe de feu, elle a les seins de glace. Un soir à Saint-Germain-des-Prés, il rencontre Jean-Claude Brialy. Ce sont deux hommes dans la ville qui se promènent et Brialy brûle-t-il d'admiration devant lui ? Comme au cinéma, il l'amène au Festival de Cannes où son visage d'ange est remarqué. Surtout quand la femme s'en mêle, c'est elle, Dive Allégret, qui le fait débuter au cinéma. Il fait ensuite la rencontre de Romy Schneider. Si, en voiture, Christine. Il lui dit simplement « Sois belle et tais-toi ». Puis il se rend chez sa belle-mère à qui il offre une tulipe noire. Elle qui fut emportée dans le tourbillon de la peste brune. Leur relation finira par tomber à l'eau, en eau sauvage, au bord de la piscine. Car vous connaissez les hommes. Parole.
Référence.
C'est pour le kikadis, quoi. Après leur rupture, il reste un temps célibataire, puis tourne de nouveaux films. Du coup, il passe de la veuve poignée à la veuve coudère. C'est un réel traitement de choc pour lui. Il est une énorme star en Chine. Comme quoi, on peut partir de Zorro et réussir dans la vie. Au Japon, Alain Delon est considéré comme une icône, un samouraï moderne. Rien d'étonnant quand on sait que le soleil rouge est l'emblème du pays. Dans les années 90, Delon connaît une éclipse, même si le vieux guépard rugit encore. Il est nommé président à vie du comité Miss France, à une époque où il n'est plus plein soleil sur les écrans. Il en est néanmoins exclu, après avoir eu une relation avec Mélodie en sous-sol.
Oh.
Également, Alain Delon est un grand amateur d'art moderne. Et tout cela nous soulage. Delon, un félin, entretient une relation particulière avec ses chiens, puisqu'il souhaite être enterré au milieu d'eux, tel un centurion au milieu de ses troupes. Alain, c'est un paradoxe, puisque s'il aurait pu être un voyou, Borsalino vissé sur la tête, faisant partie d'un clan de Siciliens avec Rocco et ses frères, a vu sa carrière célébrée dans les rôles où il était dans la peau d'un flic. Avec lui, on sauvegarde toujours la justice. En mars 1995, dans l'Express, Delon disait « J'ai fait très bien trois choses. Mon métier, les conneries et les enfants. Juste une mise au point. Parlons-en des enfants, pour foutre la merde, ils sont champions. Vous vous rappelez de la phrase du début du film Le Samouraï de Melville ? Il n'y a pas plus grande solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle. Sa fin de vie ressemble hélas à cette phrase tirée du Bushido. Alain, toi qui as toujours été un battant, un insoumis, tu avais une chance sur deux de voir s'assombrir ta fin de vie. Ironie du sort, tu t'es laissé dépasser ou déposséder par les tiens. Sans famille, dans ton immense propriété de Douchy, et c'est là qu'on se rend compte que le Loir est cher, tes enfants se battent pour t'enlever toute dignité. L'entourage familial devient un cercle rouge. C'est la famille Boulier. Ne réveillez pas un fric qui dort. Aïe, aïe, Anouchka, Anouchka, aïe, aïe.
Ne va pas plus loin.
Pour ce fructueux héritage, cette guerre entre tes enfants ressemble à un conflit de connards. En parlant d'enfants, rendons à Delon ce qui appartient à César. Le nom de Delon a été évoqué par le gouvernement comme traitement pour stopper l'infertilité. Puisqu'il paraît qu'il déclenche la sécrétion d'oestrogène, mais cela, comme dirait Thierry, l'avenir nous le dira. Monsieur Delon, pour nous, les plus anciens, vous êtes un peu notre histoire. Nous avons besoin d'hommes de la race des seigneurs. Alors attendez encore un peu avant de retrouver la petite robe noire de votre Mireille d'Arc et que nous devions vous dire adieu, l'ami.
Bravo,
bravo
David.
Bravo.
Beaucoup, beaucoup de références avec beaucoup de titres bravo, de films. Sans plus tarder et avant de retrouver un soir un destin avec Christian, notre invité, on va s'écouter Pink avec le titre Try. À tout de suite, les amis.
À tout de suite.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Try.
ce soir. Dans Les Copains d'abord. Carole et Hassen dans Un soir, un destin.
Alors j'ai la chance de vous présenter un artiste ce soir qui est complet, que je connais très bien.
Donc, elle essaie toujours de se placer, Carole, c'est incroyable.
Parce que je cherche du boulot en fait, alors je passe des annonces.
Chaque mois, on se connaît bien.
C'est clair, ouais. La question.
Alors, c'est un artiste qui est également connu du grand public, de par ses dessins humoristiques, mais pas que. Il est donc dessinateur de presse et d'humour, illustrateur et artiste sculpteur. Christian avec un K, ça vous parle ? Évidemment que ça vous parle. Tout commence en 1980, lors de l'apparition de son premier dessin dans Le Dauphiné Libéré. Ensuite, c'est la grande aventure Nice Matin qui commence. Il collabore avec plusieurs chaînes de télé, dont France 3, en assurant une revue de presse hebdomadaire pendant 13 ans. Plus tard, il collabore au 43e et 47e Festival du film de Cannes, mais également avec un très grand journal japonais. À ce jour, ses dessins d'humour et d'actualité ont fait l'objet quand même de plus de 12 000 publications en France et à l'étranger. Affiches, dessins publicitaires, conception de décors pour les pièces de théâtre, rien ne l'arrête. Il a exposé ses œuvres dans plusieurs salons d'humour en France et à l'étranger, ainsi que dans des musées. Et il a exposé de façon individuelle au Japon et en Colombie. Il est aussi l'imagier du carnaval de Nice depuis 2001. À ce jour, il compte quand même 9 prix à son actif, et excusez-moi du peu, il a été nommé Chevalier des Arts et Lettres en 2016.
Bravo.
Eh ouais, bravo.
Avec nous te ferons départ. Une petite révérence en fin d'émission, Christian.
Oui. J'espère bien.
Et un autographe. Avec un CV pareil, on pourrait croire que notre invité est centenaire, mais je vous rassure, pas du tout.
Pas loin quand même. Hein. Pas loin.
Il te reste encore du temps. Donc bonsoir Christian, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir et merci pour cet accueil.
Avec grand plaisir. Alors nous allons parler un petit peu de ton parcours et de ton actualité, avec une série de questions, et comme d'habitude, c'est mon copain Hassen qui s'y colle.
Comme le disait, c'est justement Carole, que ce soit sur support papier ou à la télé, tout le monde est déjà tombé au moins une fois sur l'une de tes publications. On aimerait tout simplement savoir comment le dessin est arrivé dans la vie de Christian et de quelle manière il s'est finalement imposé à toi.
Eh bien, c'est arrivé vraiment très, très tôt, très jeune, mais plus que très jeune, puisque j'avais à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Je vais la faire courte, mais il se trouve que j'ai été malade lorsque j'étais enfant et j'ai dû être séparé de mes parents de 2 ans et demi jusqu'à 7 ans. Donc c'était un petit peu compliqué, bien sûr, pour le petit garçon que j'étais. J'étais chez des gens qui me gardaient à la montagne et chez eux, il y avait rien. Pas un baby-foot, pas un... Et il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait vraiment rien. Et dans ma chambre, il y avait des piles de magazines qui contenaient des dessins d'humour. Et je me souviens plus exactement, bien sûr, parce que j'étais vraiment très petit, j'étais triste, j'étais séparé de mes parents, j'étais seul. Et je me suis réfugié dans le dessin. J'ai regardé ces dessins, je ne me souviens plus, est-ce que je les comprenais vraiment ou pas. Mais j'ai commencé à les recopier. Et puis, les années passant... J'ai commencé à en créer moi-même et ensuite j'ai retrouvé ma famille lorsque j'avais 6 ou 7 ans et cette passion ne m'a jamais quitté. J'ai dessiné à l'école, sur mes profs, sur mes copains, sur mes copines. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Et puis c'était une façon de me faire aimer, c'est une façon de draguer les filles. C'est devenu vraiment mon mode de communication et ça ne m'a jamais quitté.
C'est un peu thérapeutique en fait.
Absolument. Et je me suis vraiment réfugié là-dedans. Peut-être que si j'avais pas eu ce problème de santé gamin, je ne serais pas devenu dessinateur parce qu'il n'y avait pas d'artiste dans la famille. Mais ça s'est passé comme ça et ça ne m'a vraiment jamais quitté. Aujourd'hui, j'essaie des fois de rendre un peu l'appareil parce que je vais dessiner avec des gamins malades à l'hôpital de l'Archer ou dans d'autres endroits. Mais donc cette passion vient de là.
D'accord, très bien.
Incroyable comme début d'existence.
Oui, mais je crois que pour pas mal d'artistes, il y a quelque chose comme ça qui se passe souvent. Un accident, quelque chose.
Un élément déclencheur.
Oui, il y a toujours un élément, bien sûr.
Alors j'ai évoqué rapidement dans ta présentation tout à l'heure ta collaboration avec Nice Matin et certaines chaînes de télévision. Est-ce que ça a été facile pour toi de te faire une place dans les médias et de quelle façon ? Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque les portes se sont ouvertes à toi et au succès ?
J'ai arrêté mes études, j'avais 16 ans. J'ai jamais arrêté de dessiner. Alors, je faisais des petits boulots et puis je dessinais à côté, mais ça marchait pas trop. J'ai travaillé à Grasse, par exemple, à la voûte, que certains d'entre vous ont bien connu. Et puis, même Jean-Pierre Leleu, l'ancien maire de Grasse, je me souviens d'en avoir parlé avec lui, également aussi.
Pas à Grasse, monsieur Cohen, quoi.
Et avec Jackie Cohen, bien sûr. Et Jean-Pierre, il y a aussi travaillé. Bon, voilà. Donc, je faisais des petits boulots comme ça, je dessinais à côté. Ça marchait pas trop, mais j'ai tout de suite été publié. Mais j'y gagnais pas suffisamment ma vie pour pouvoir ne faire que ça. J'ai été publié, j'étais le plus jeune dessinateur publié en France à cette époque-là. Et puis, je suis monté à Paris, comme on dit, avec mes dessins sous le bras. Je suis allé taper aux portes des rédactions. À l'époque, pas d'Internet, mais il y avait ce contact physique, donc c'était peut-être encore mieux.
Mais c'était du vrai porte-à-porte, quoi.
C'était du vrai porte-à-porte. J'allais sans rendez-vous. Le premier rendez-vous, je me suis fait ramasser par vraiment la caricature du directeur de presse, gros bonhomme avec son cigare dans son fauteuil, qui m'a dit « Vous n'avez pas autre chose à faire dans la vie ?» Et puis, juste derrière ce rendez-vous...
C'est encourageant, quand même.
C'était pas mal. Mais j'ai eu de la chance parce que juste derrière, je suis allé à Femme Actuelle qui venait de se créer et j'ai eu un accueil totalement à l'inverse par la directrice de la publication qui m'a dit, bon, c'est un peu gênant de le dire, mais elle m'a dit, j'ai jamais rien vu d'aussi bon depuis pas mal d'années. Je me souviens qu'elle m'avait acheté 14 dessins sur les dessins que j'avais amenés. Et je me souviens, alors je suis pas spécialement un sage, hein, mais d'être sorti de ce deuxième rendez-vous en me disant, bon, bah écoute mon gars, ça va être comme ça dans toute ta vie, les goûts et les couleurs. Il y a des gars, le premier qui t'a dit que t'étais nul, il a sûrement pas raison, et la deuxième qui t'a dit que t'étais un génie, elle a sûrement pas raison non plus. Peut-être que la vérité se situe entre les deux.
Sacrée définition, mais beaucoup d'humilité en tout cas quand tu parles, ça se sent.
Bon, enfin, en tout cas, ça s'est passé comme ça, ouais. Et puis ensuite, encore un peu de moments de galère, mais j'étais tout jeune, donc c'était pas vraiment de la galère, j'ai continué dans la restauration, et d'un coup, ça s'est déclenché. Je suis rentré à Nice Matin, 3 mois après mon entrée à Nice Matin. Un journaliste, Jean-Marc Michel de France 3, m'a appelé, il avait vu mes dessins dans le journal, et il m'a proposé de travailler avec lui sur une émission de variété. Je suis rentré à la 3 pour une émission mensuelle de variété, je dessinais en direct pendant l'émission, pour vous dire que j'avais vraiment les jetons. Non, j'étais avec mon paperboard et mes gros feutres, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'électronique. Hein. Ouais. Et pendant que je faisais mes dessins en direct, je me disais « Mais c'est nul ce que tu es en train de faire, c'est nul !» Et puis à la fin de l'émission, Jean-Marc venait me voir et me disait « Ah ouais, bon, ah, c'est chouette, super, c'est bien. Bon. » Et puis, première émission, à la fin, je lui dis bon, ok, c'est bien, comment je fais pour être payé ? Alors, il se met à rire. Il me dit, tu vas être payé. C'est mon métier, quoi, peut-être. Alors, il me dit, écoute, je te rappelle dans la semaine. Et puis, il m'a rappelé dans la semaine. J'étais engagé pour cette émission chaque mois. Et un mois après, le directeur de l'information est venu sur le plateau. Il m'a dit qu'il voulait que je fasse une revue de presse hebdomadaire qu'ils appelaient La Semaine de Christian. Ouais. Et c'était parti, j'aurais jamais imaginé ça. Pendant 13 ou 14 ans, j'ai collaboré à France 3 et j'avais ma rubrique chaque semaine au journal télévisé du samedi soir et du dimanche soir. À cette époque-là, tout le monde regardait le JT et ça a été pour moi quelque chose de très important.
Je me souviens moi-même de tes dessins.
Bah c'est bien, c'est que tu as un certain âge quand même.
Mais j'ai 47 ans, Christian. Mais c'est réellement. Et c'est vrai que moi, ce qui me fascinait aussi, c'était ta signature. Avec le cas de Christian.
C'est vrai qu'on attendait tous les soirs.
Il y a une histoire d'ailleurs sur ce cas de Christian que tu as choisi.
Carole, effectivement, il y a une histoire sur ma signature. Au début, ma signature était très alambiquée. J'avais mis un K pour mon prénom, c'est CH. J'avais mis un K, j'avais gardé le H. Et j'avais une signature qui était arrondie, qui n'était pas lisible. Et je rencontre Piem sur une émission et il me dit, Christian, ta signature, ça va pas, regarde la mienne. Je sais pas si vous voyez la signature de Piem, très bâton. Viens avec moi dans un bar et on va boire un coup et on va faire des signatures. Et c'est ce qu'on a fait, on a passé l'après-midi sur des nappes à papier à faire des signatures. On est arrivé à peu près sur la mienne aujourd'hui, que j'ai retravaillé parce que je voulais que vraiment me l'approprier. Et j'en ai fait quelque chose de beaucoup plus lisible, j'ai enlevé le H, j'ai signé à plat. Et voilà l'histoire de cette signature, elle a été créée avec Piem.
Tu vois, je t'en parle, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment elle a une identité comme toutes les signatures. Et pour un dessinateur, c'est extrêmement important, bien si sûr. Tu viens de le dire.
Absolument. J'aurais peut-être dû, des fois je regrette, parce que mon nom de famille, je m'appelle Christian Petit. Et j'aurais dû signer de mon nom de famille, en fait, parce que je pense que c'était quelque chose qui marquait plus... qui aurait plus marqué, ça aurait pu être pas mal. Mais enfin, bon, je regrette rien.
Christian, c'est plus joli que Petit. Oui. Mais
je sais pas, tu sais, c'était.
Je pensais Christian.
Mais oui, ou signer les deux, ou voilà. Bon. Après, il y avait d'autres dessinateurs qui s'appelaient Petit. Il y a Petit Luc, qui est un super dessinateur de bande dessinée. Donc finalement, je suis resté sur le prénom.
Écoute, on continue. Alors, de par ton activité de dessinateur presse, je pense que tu as été amené très certainement à rencontrer des personnes incroyables. Y a-t-il justement des personnes qui ont été déterminantes dans ta vie, des personnes qui t'ont peut-être aidé dans ton parcours, ou qui t'ont conforté, on revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, dans le choix de cette carrière? De qui gardes-tu le meilleur souvenir.
Mais ma vie n'a été que ça, comme je viens de te le dire. Je n'ai pas fait d'études, je veux dire les beaux-arts, ou d'études qui m'ont amené à ce métier. Pour autant, je ne me considère pas comme autodidacte, parce que justement, je me suis nourri de mes pères et des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Et le talent, peut-être, c'est celui-là, c'est celui de faire ces rencontres-là. J'ai eu la chance, lorsque j'avais 22 ou 23 ans, de rencontrer Guy Foissy, énorme auteur de théâtre, énorme dramaturge français, jouait à la Comédie française. Il m'a emmené avec lui, c'était un Grassois d'ailleurs Guy, il m'a emmené avec lui dans cet univers du théâtre que je ne connaissais pas. J'ai créé des décors, des affiches pour ses pièces. Guy était Grand Prix de l'humour noir et il m'a introduit auprès de pas mal de personnes. Donc il n'y a pas une personne, il y en a plein. Je citais tout à l'heure Jean-Marc Michel à France Télévisions, Paul Blanc, le rédacteur en chef du Dauphiné Libéré, qui est le premier à m'avoir vraiment fait confiance. Grâce à mon ami Guy Foissy, l'auteur de théâtre, je suis arrivé au Japon, où j'ai travaillé pendant 36 ans. J'y ai fait presque une centaine d'expositions. Enfin bon, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé un mois ou deux par an pendant 36 ans. Le Festival de Cannes, c'est aussi ma rencontre avec Pierre Bonnet, qui était le directeur du marché du film. Toujours des rencontres de hasard qui m'ont amené à pouvoir continuer cette carrière. Et puis, dans des domaines aussi qui sont pas toujours forcément prévus pour un dessinateur de presse. J'ai toujours cherché ça. Comme je voulais vivre en région, j'ai toujours cherché à me diversifier. Et à aller vers la sculpture, et aller vers le carnaval, vers le Festival de Cannes, je fais des illustrations de congrès en direct, je fais vraiment pas mal de choses, tout ce qui peut tourner autour du dessin, ça va jusqu'à la sculpture, mais pour moi finalement c'est la même chose.
Bah, t'as eu beaucoup de chance en tout cas dans tes rencontres, et ça
absolument.
C'est
génial, et c'est tous ces gens, et puis quand tu disais après il y a aussi mes pères, c'est-à-dire les amis dessinateurs, ceux que je lisais lorsque j'étais gamin, qui sont devenus mes copains, Cabu, Volinsky...
Mais à la base quand même il y a un talent, il y a quand même
je
le
crois
talent,
pas.
L'envie et peut-être aussi une passion quelque part.
Parce une passion, que, une voilà. passion, une envie, alors le don ça n'existe pas, c'est une passion, une envie, du travail. Je pense pas que j'étais spécialement doué pour le dessin. Ça m'a passionné, je suis rentré là-dedans et ça m'a pris le corps tout entier.
Alors je sais, pour te connaître un peu, que tu es toujours étonné de ce qui t'arrive, jusqu'à avoir l'impression que ta carrière va recommencer demain. Comment pourrais-tu expliquer ça ?
Pas qu'elle va recommencer, qu'elle va commencer demain.
Elle va commencer,
demain.
Oui.
Eh ben, je pense. Alors, au début, ça m'a beaucoup gêné justement d'être toujours très critique sur mon travail, mais j'avais le confort et le réconfort de savoir que ça marchait. J'étais publié, j'avais accès à de grands médias, etc. Mais j'ai toujours effectivement eu un regard très critique. Très critique sur mon travail. Et je pense quand même, tu es artiste, Carole.
Oui.
Je pense que quand même, c'est la plupart des artistes.
Ah oui,
on se regarde là sur leur travail.
Il
est vraiment très rare que je regarde un de mes dessins et je me dis, ah, celui-là, il est top, il est génial. Mais j'ai appris à m'accommoder et à dompter un peu ce doute. Et c'est un moteur important pour progresser.
Je pense, tes activités, ton métier t'a amené à parcourir le monde. Quel est le pays qui t'a le plus marqué ? Quelle est la culture, finalement, dont tu te sens le plus proche ?
Alors, je le disais à l'instant, j'ai une grande aventure avec le Japon. En ce moment, c'est la Chine depuis quelques années. Ça a commencé avant le Covid. C'est pas moi qui ai ramené le Covid hein, de Chine.
C'est une bonne nouvelle.
C'est bien
de passer. Mais j'ai eu la chance d'aller en Colombie, pas mal aussi aux États-Unis, etc. Mais voilà, le pays dont je me sens le plus proche, parce que j'y ai vécu plein de choses et parce que j'y suis allé très souvent, comme je disais tout à l'heure.
Après c'est la France, bien sûr.
C'est le Japon. Voilà. Là, alors, il se trouve que mon agent est mort, donc c'est pour ça que je suis pas retourné au Japon depuis 3-4 ans. On me le demande, je vais le faire, j'en ai l'envie. Ça a été là-bas une expérience vraiment très très chouette. Puis le prestige de l'artiste français à l'étranger, c'est toujours génial ça.
Ah oui, c'est sûr.
Et surtout en Asie, c'est quelque chose quand même qui est énorme.
Ouais. En plus, au Japon, il y a une grande tradition de calligraphie aussi, de dessin de calligraphie.
Ah ben, il y a vraiment une grande tradition de dessin. Moi, j'ai été surpris de me retrouver, parce que tout à l'heure, Carole le disait, je me suis retrouvé, par un hasard aussi, par une rencontre, dessinateur du Shokan Shinsho, qui correspondrait à Paris Match ici, par exemple. C'est un journal qui a 10 millions de lecteurs par semaine. Et ils sont venus me chercher pour être leur dessinateur. C'est incroyable.
Ah, c'est énorme.
C'est quelque chose d'incroyable. En France, Paris Match, mais ils ne savent même pas, que j'existe. Quoi. Bon,
finalement, dans ta vie, le hasard fait bien les choses.
Mais je pense que c'est dans la vie de tout le monde. Mais là, en tout cas, ça a été une sacrée aventure de collaborer à ce magazine et d'avoir dans cet hebdo et d'avoir mon dessin chaque semaine au pays des mangas. Quoi. C'est ça qui est fou. Qu'ils soient venus chercher un petit Français pour être leur dessinateur. Ça, c'est drôle.
Alors, on vit une époque extrêmement troublée. Notre société est fracturée. On sent bien que le rire de tout est difficilement possible aujourd'hui. J'aurais voulu avoir ton avis là-dessus et savoir s'il t'arrive de t'auto-censurer.
Bien sûr, toujours, parce qu'on va dessiner pour un média, même quand je travaillais pour la télé. Par exemple, le journal de France 3 était destiné à tout le monde. Je m'interdis aucun sujet. Je fais des dessins qui peuvent être sur des drames, sur des catastrophes naturelles, sur des attentats, sur des crimes, sur des guerres, comme sur des faits divers, comme sur des anecdotes, comme sur du sport. Donc je m'interdis aucun. Mais suivant le média auquel je vais collaborer, et puis de toute façon c'est aussi ma tournure d'esprit, je vais l'évoquer d'une façon différente. Et j'essaie de faire en quelque sorte aussi que ça passe, quoi. Pour autant, moi, j'adore Charlie, par exemple, ou j'adore ce genre de dessin aussi coup de poing dans la gueule. Mais c'est pas mon style. Ce n'est pas calculé, c'est pas mon style, c'est tout.
Et quand c'est bien dessiné avec tes petites bulles paroles, il y a un mélange qui a un équilibre, en fait. Et que les sujets qui sont difficiles dont tu parles, ils passent très bien.
Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'essaie de faire.
On aimerait enfin, rapidement, connaître ton actualité du moment. Et je pense que tu vas bien évidemment nous parler du carnaval de Nice.
Oui, tout à fait, j'ai un char. Alors ça fait 24 ans que je collabore au carnaval, ça sera mon 58e char qui va défiler cette année sur le thème de la pop culture. J'ai fait un char justement, c'est dans notre domaine, l'école de Nice, les artistes, les célèbres artistes, Armand, César, Klein, etc.
Bon, niçois, oui.
Voilà, niçois. Et ensuite, je vais avoir une expo à la médiathèque de Valbonne, Sophia Antipolis. Pas mal d'interventions, parce que j'interviens beaucoup auprès de jeunes ou moins jeunes. À Vaux-en-Velin, ça fait plusieurs années que je le fais. Avec Cartooning for Peace, c'est un groupement de dessinateurs de mon ami Plantu, qui a été créé par Plantu et Kofi Annan. Je fais pas mal d'interventions aussi en maison d'arrêt, etc. Le retour en Chine au printemps. Deux dessins qui vont être prendre place au musée à ciel ouvert de Tourette du Var. Une expo pendant le carnaval à la Villa Masséna, c'est pas une expo personnelle, c'est une expo de groupe. Je vais y participer. Voilà, Villa Masséna à Nice. Voilà à peu près. Cet après-midi, j'ai dessiné l'affiche d'une prochaine course qui aura lieu à Grasse, qui s'appelle le défi du Doubier.
Voilà, qui
aura lieu, bah, c'est ça, m'en sous peu, je crois.
En tout cas, elle aura lieu.
Une course cycliste.
Ah, une course cycliste. Voilà.
Ah, bah, c'est en mars quand il y a changement d'horaire.
Je viens également pour le Pays de Grasse dessiner pour les 25 ans, un dessin pour les 25 ans des Allumés de la Pleine Lune. Une belle manifestation. Belle manifestation aussi, hein, les Allumés. Il y a pas mal de projets. J'ai deux bouquins à illustrer, là, d'ici la fin de l'année. Puis je continue cette aventure. Je me sens vraiment privilégié. Je suis super heureux toujours de faire ce métier. Je suis heureux de vivre ici. J'adore cette région. J'adore le Pays de Grasse. J'habite à Cabris. Et je me sens vraiment privilégié.
Nous aussi, on a été très, très heureux de te recevoir.
On a aussi été privilégié.
Et en tout cas, tu fais notre fierté grassoise, quand même. Moi, je vais te remercier.
Surtout qu'on dirait,
je laisse mes copains.
Un adolescent avec les yeux qui pétillent tout le temps. Je trouve ça génial.
Mais je suis un adolescent, un vieil adolescent.
Oui, Carole, tout à l'heure, a parlé de centenaire. Hein. C'est beau, ça, quand même. Un adolescent centenaire. En tout cas, merci beaucoup, Christian.
Merci.
Beaucoup,
Christian. Merci. Merci.
Avant de retrouver mon instant décalé, on écoute tout de suite le groupe Aerosmith avec le sublissime titre I Don't Want Miss a Thing. À tout de suite.
Ce soir. Vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Les copains d'abord. Thierry dans l'instant décalé.
Bonjour Thierry.
Oui, c'est moi.
C'est toi.
Il a réveillé l'équipe. L'équipe qui dormait, petit
David,
coma.
Il est où, David? David, il dort. Donc, pour le début de cette chronique de février, tu souhaitais innover en nous proposant l'éphémérite du jour.
Absolument, il paraît que c'est quelque chose qui se fait sur d'autres radios FM qui n'ont pas grand-chose à proposer. Bon ben, j'y vais, je me lance. Ça va être chiant, hein, je vous préviens, ça va être chiant. Nous sommes donc le mardi 20 février, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Kurt Cobain du groupe Nirvana, qui serait toujours en vie s'il n'était pas mort. Et on oublie trop souvent de préciser que le 20 février, c'est aussi le 51e jour de l'année du calendrier grégorien et le deuxième jour astrologique des poissons. Je sais, là, ça commence à être vraiment, vraiment chiant. Alors, nous en profitons également pour souhaiter une bonne année aux Aimés, aux Emeline, aux Amadea, ainsi qu'aux Amédée. Si vous répondez à l'un de ces vieux prénoms et que vous nous écoutez, c'est un vrai miracle. Si vous n'êtes plus en vie, vous ne pouvez par conséquent pas nous écouter. Et si vous ne pouvez pas nous écouter, cette éphémérine n'a donc très peu d'intérêt pour vous.
Oui, donc, c'est également aujourd'hui la journée mondiale de la justice sociale.
Oui.
Il y a deux jours, c'était celle du pangolin. On s'en sort plutôt bien. Et le proverbe qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même n'a jamais été aussi d'actualité.
En effet, nos députés viennent de se rajouter 300 euros sur leur avance de frais de mandat, imitant leurs petits copains, les sénateurs qui l'avaient fait discrètement avant Noël. Allez, plus de 700 euros pour eux. Formidable. Et tout ça sans avoir eu besoin d'envoyer du caca partout. Une méthode utilisée il y a très peu de temps par nos amis agriculteurs qui avaient aspergé de lisier les bâtiments publics pour se faire entendre. Résultat, un petit chèque de 400 millions. Alors, si dans l'équipe, vous avez des revendications sur ma manière de conduire l'émission ou de vous traiter, n'hésitez surtout pas à relâcher vos sphincters et à laisser parler le petit agriculteur qui sommeille en vous pendant cette chronique. Je saurai vous entendre, évidemment.
Et
afin de protéger, évidemment, l'intégrité physique de Christian, notre invité, de rassurer ses proches qui doivent nous écouter, une combinaison en néoprène ainsi qu'un parapluie vont être immédiatement distribués. Une équipe du GIGN qui attend derrière la porte du studio devrait également, dans un second temps, parvenir à l'exfiltrer si besoin.
Mon cher Thierry, comme tout le monde le sait, le mois de février, c'est le mois de...
La Saint-Valentin.
De l'amour. Et je crois savoir que c'est l'amour qui t'a guidé dans l'écriture d'une partie de cette chronique.
Alors, je ne sais pas vraiment qui a pu t'écrire ce genre de conneries, mais pour aller dans ton sens, je dirais qu'en ce mois de février, l'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. Alors, je sais bien que dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si notre Carole se fait pousser la moustache, qu'elle prend l'accent du sud-ouest et qu'elle joue de la guitare, je suis persuadé que ça peut faire un carton.
Je sais le faire.
Effectivement, on l'a dit, février, c'est le mois de l'amour. Et c'est surtout le mois de la Saint-Valentin.
Absolument, la Saint-Valentin qui est surtout là pour rappeler aux célibataires qu'ils sont célibataires. D'ailleurs, la Saint-Valentin, pour un célibataire, c'est un peu comme un 1er mai pour un chômeur. Ça ne va pas chercher bien loin. Alors, si vous êtes actuellement célibataire et chômeur, un conseil, misez tout sur la réincarnation. Et à ce titre, on rappelle que le célibat est un vrai choix. Enfin, c'est ce que nous disent la plupart des célibataires qui sont seuls depuis une bonne décennie. Hein. On l'a tous vécu. Et poli et lâche que nous sommes, ben on acquiesce alors qu'on aimerait leur dire qu'on sait très bien que c'est surtout parce que personne n'a voulu d'eux. Et j'ai pour exemple ma voisine de palier, Véronique, 51 ans, 9 chats, 2 chiens et 3 perruches, qui me disait justement ce matin que la solitude ne lui pesait pas plus que ça.
On n'en fait pas une seconde.
Et puis, pour continuer dans cette rubrique feel good, hein, quand même, un petit
c'est
peu.
C'est du feel good.
Voilà. Je souhaitais revenir sur une info qui fait grincer les dents en ce moment. Avec certains criminels qui vivraient en prison leur presque meilleure vie.
En effet, Nordal Lelandais, connu tristement pour le crime de la petite Maëlys, est devenu un papa gâteau, puisqu'une femme qui est arrivée à séparer l'homme de l'artiste lui a fait un enfant. Alors Macron avait prôné le réarmement démographique, il semble avoir été écouté. Jonathan Daval, le meurtrier d'Alexia, sa femme, s'est fait plein de petits copains en prison et prendrait son petit café tous les matins avec Patrice Allègre, Francis Holm, et serait devenu l'ami plus de Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, ce qui m'amène à évoquer tout naturellement la malédiction dite des doubles prénoms, qui pourrait laisser penser qu'il prédestine à commettre l'irréparable. Alors, on vient de parler de Guy Georges, mais c'est un peu comme lorsque tu cites une marque de lessive à l'antenne, t'es un peu obligé de citer les autres. Alors, dans les doubles prénoms, on a Émile Louis, hein, le troublion Émile Louis, on a Patrick Henry, et si on va plus loin dans les grands meurtriers de ces dernières décennies, on a même un triple prénom avec Jean-Pierre François, qui s'est par une force maléfique avait lui aussi commis l'irréparable en 89 avec son titre Je te survivrai. Et là, je voudrais profiter de cette chronique pour m'adresser directement à notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui nous écoute très certainement, hein, on lui fait un petit coucou, et qui devrait faire surveiller de près le comédien Jean Benguigui, qui multiplie donc par 4 les chances de terminer dans l'émission Faites rentrer l'accusé, avec, je le rappelle, Jean, Ben et Guigui, soit 2 fois un double prénom.
Et puis pour terminer cette chronique, tu as décidé d'innover avec quelques brèves.
Absolument, en distribuant des cartons verts et des cartons rouges.
Voilà, j'aimerais savoir.
Alors je vais vous balancer des brèves et voilà. Vous allez me dire si c'est carton vert, donc c'est positif, ou carton rouge, c'est négatif. Alors Charles III se remet magnifiquement bien de son opération de la prostate qui confirme l'adage de Twix, deux doigts coupe fin. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Carton vert ou carton rouge ?
Carton vert.
Bah, carton vert, c'est positif.
Oui.
On est d'accord.
Oui, tout à fait.
Bon, la deuxième. Les chasseurs peuvent désormais acheter leurs cartouches dans les bureaux de tabac. Donc, le matin, en prenant son café, on peut désormais entendre
ouais, café,
hey, Gégé, tu mets une cartouche qui n'a donc plus rien à voir avec une proposition sexuelle. Carton vert ou carton rouge ?
Carton rouge.
Ah non, carton vert, c'est une bonne nouvelle.
C'est génial.
Le gouvernement a dit ça y est, on va faire plein de trucs, des plans d'action pour à peu près tous les sujets. Faut croire que les mecs n'avaient pensé à rien pendant 7 ans. Et là, t'as des solutions en palette de 12. Du coup, on est super rassuré, sauf pour notre Premier ministre qui ressemblait à Dora l'exploratrice le jour de sa nomination avec son petit cartable et tout et tout, et qui après un mois et demi à Matignon est pas loin de ressembler capillairement à Pollux. Hein, y a clairement un avant et un après, et le gamin bah, aujourd'hui il fait plus vieux que Lynn Renault, qu'on embrasse aussi, qui doit certainement
qui
nous écouter. Carton vert ou carton rouge ?
Carton rouge.
Mais non, carton vert.
Carton vert.
Ils ont pas de solution pour le pays. Carton vert. Oh, ils sont largués complets là dans l'équipe. Allez, encore une. Les épreuves de tir des Jeux Olympiques auront finalement lieu à Châteauroux. Dommage, Marseille était pourtant la mieux placée. Carton vert ou carton rouge ?
Carton rouge ?
Ah oui, carton rouge. Là, t'es d'accord.
Ça y est, on a une
carton rouge.
Enfin.
Allez, une petite dernière. Pouvez-vous rattraper sur ce coup-là ? Et puis, donc, un chiffre que je qualifierais de mi-figue, mi-raisin, avec un recul de moins 15% de blessés graves sur les routes françaises. Réduire le nombre d'accidents sur la route, c'est bien. Mais ne jamais oublier que réduire le nombre d'accidents, c'est aussi réduire nos chances de médailles aux Jeux paralympiques. Et ça, c'est vraiment moche. Carton rouge ou carton vert ?
Carton rouge.
Carton rouge, bravo ! L'instant desquels et c'est terminé. Merci de m'avoir écouté.
Est-ce que je peux dire quand même quelque chose ? Est-ce qu'un agriculteur célibataire doit prier Sainte Thérèse de Lisieux ?
Oula ! On va leur demander, on invitera un agriculteur. Merci pour cette intervention puissante.
Je pense qu'il doit prier Saint Thomas, tu vois. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment avec la chronique de Thierry. On se retrouve dans un instant avec des insolites du monde de Laura, après Beyoncé et son titre Allô. À tout de suite.
À tout de suite.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Again.
Dans Les Copains d'abord, Laura dans Les Insolites du Monde et des réseaux sociaux.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le quatrième opus des Insolites du Monde et des réseaux sociaux. Démarrons le voyage à New York où un policier en intervention s'est vu confronté à une situation bien inhabituelle. Pour faire suite à la visite d'un valeureux citoyen à l'hôpital du coin pour des causes de morsures de chien, le dit policier s'est rendu au domicile de ce dernier. L'idée était simplement de s'assurer de la dangerosité ou non de l'animal de compagnie. Mais quelle ne fut la surprise générale lorsque le policier découvrit que Médor était en fait un gros tigre de 180 kilos. Et comme si cela ne suffisait pas, le 5 pièces cossu abritait aussi un second tigre avec ses petits, un adorable petit caïman de 90 cm, deux rottweilers, des lapins, une tarentule. Quelle belle famille recomposée que v'là. J'imagine. Il est dans le thème. Passons de l'autre côté de la force à présent et dévoilons un nouveau concept marketing ultra prometteur. Des trafiquants de drogue toulousains ont récemment créé les haches d'or. Le concept est simple, des tickets fidélité à gratter pour gagner jusqu'à 10 grammes de verdure.
Quand on a la main verte, c'est parfait.
Hein. C'est génial. Nous y sommes, la naissance de la Française des bœufs. Retour en Allemagne.
Ça y est, les parties en roulé.
Retour en Allemagne, un homme d'une quarantaine d'années a malencontreusement égaré son trousseau de clés. Mais loin de lui, l'idée de s'enfermer dans son pessimisme, il a rapidement pris le taureau par les cornes et a décidé d'aller checker la benne à ordures. Tant et si bien que sa tête y resta bloquée. La bonne nouvelle, c'est que pompier aidant et benne découpée, le vaillant homme a bel et bien retrouvé ses clés. La moins bonne, c'est qu'il s'est vu contraint d'y tomber entièrement pour ce faire. Et à l'heure où je vous parle, personne ne sait encore ce qu'il est advenu de son amour propre. Si je devais rebondir sur une histoire de trouvailles, j'aurais très envie d'évoquer celle de cet homme en cavale depuis 20 ans. Il s'agit d'un Américain de Caroline du Sud qui avait changé d'identité après avoir simulé son propre décès par noyade en 89.
Il est perturbé le type.
Un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire. L'ennemi public numéro 1 avait aussi ainsi abandonné femme et enfant pour reconstruire une nouvelle vie dans l'anonymat le plus complet. Peut-être que ça l'arrangeait un peu. Hein. Deux décennies, un contrôle routier pour cause de plaques d'immatriculation défectueuses plus tard, il apprit qu'il n'avait en fait jamais été recherché de toute sa vie.
Ça c'est quand on t'aime pas.
Je pense qu'il l'espérait un peu d'avoir été recherché. Bien longue cette escapade spirituelle. Restons sur le sujet des bonnes décisions mûrement réfléchies. Un homme amoureux, une relation, l'ambition d'une union, bref, tous les ingrédients réunis pour que cet Anglais puisse envisager le meilleur sans jamais penser au pire. Mais puisque dans le mariage, l'un ne va pas sans l'autre, ainsi, pour surprendre sa belle, l'amoureux transi s'est vu glisser un anneau orné d'un diamant d'une valeur de 10 000 euros dans un ballon à l'hélium.
Ne jamais faire confiance en l'hélium, jamais. Je sens pas le truc, je sais pas pourquoi je le sens pas.
Il le fera pas une deuxième fois. 10 000 euros dans un ballon à l'hélium. On devine facilement l'envolée sauvage de cette idée brillante. À défaut d'avoir le cœur léger, sûr que le portefeuille du Seigneur des Anneaux s'en trouve aujourd'hui moins lourd.
C'est Thomas Pesquet qui l'a récupéré.
Il y en a au moins qui est content. Finissons avec cet Américain en colère, profondément touché par les guerres, crises financières, sanitaires et autres catastrophes naturelles. Il a donc décidé d'agir. Et pour ce faire, il a très naturellement intenté une action en justice contre Dieu. Alors oui, procès perdu, mais jugement porté en appel. Nous sommes dans l'attente impatiente d'un nouveau verdict.
Merci beaucoup, Laura, pour cette petite pépite que tu nous trouves tous les mois.
Avec grand plaisir.
Et qui sont très très efficaces. D'ici quelques instants, on retrouve le grand jeu du qui a dit quoi. A tout de suite, les amis.
A tout de suite.
A tout de suite.
À tout de suite.
Ce soir, dans Les Copains d'abord, on joue avec le qui a dit quoi.
Vous êtes toujours en train d'écouter l'émission Les Copains d'abord et on va maintenant jouer au qui a dit quoi. Alors le qui a dit quoi, qu'est-ce que c'est?
Un jeu où je perds.
Oui, absolument, un jeu où Carole perd tout le temps. Je vais donc vous distribuer des citations de célébrités en vous balançant quelques indices au fur et à mesure et vous allez devoir en trouver les auteurs. Alors attention, des petites phrases issues de textes de chansons ou de répliques de films vont également se glisser dans cette liste et il vous faudra en trouver le titre. Pour ce soir, j'ai décidé que David, qui est pour le moment à 2 victoires consécutives dans ce jeu, allait jouer tout seul contre le reste de l'équipe afin qu'il n'ait pas besoin de tirer sa victoire avec quelqu'un qui n'aura pas contribué à son succès. Voilà, j'ai décidé de faire les choses justement ce soir.
Non, c'est pas juste.
Alors je laisse Christian du coup partir avec cette équipe de losers.
Bien joué, Christian.
Première question, est-ce que tout le monde est concentré?
Oui,
allez, c'est parti. Première citation, le voyage est court, essayons de le faire en première classe.
Chirac?
Non, c'est un comédien extrêmement connu.
Des proches.
Une voix. Il avait une voix tellement reconnaissable.
Ça parle, hein. Ouais.
Un acteur qui a remporté 2 Césars au cours de sa vie. Il a joué avec Romy Schneider dans Le Vieux Fusil.
Philippe Noiret.
Bah
oui, on l'avait.
Un point pour David qui l'a mis à un petit millième de seconde de la scène.
C'est vrai, c'est vrai.
Un point pour David qui prend la tête de ce jeu.
C'est vrai en plus.
Deuxième question. Tu m'enlaçais dans les ruines du vieux Rome. À part nous, il n'y a personne. Ah. Seul le tonnerre résonne, m'emprisonne, tourbillonne.
C'est une chanson de Monaco.
Bravo, Laura. Laura qui prend sa revanche et qui donne du coup un point à Carole.
Ah, ça y est. Merci, Carole.
C'est pour toi. Ton point, surtout, ça serait dommage de l'oublier. Oui.
Nous, on fait du social à Carole. Pour elle. Ouais.
Alors, la troisième citation, c'est une réplique de film célèbre. C'est vraiment facile, c'est à la portée de tout le monde, Carole. Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent.
Le Père Noël est une ordure.
Bravo David, le Père Noël est une ordure.
Bravo Carole.
Un point supplémentaire pour David, bravo. Quatrième citation. Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, pardon, je suis guéri. Maintenant, je pisse au lit, mais j'en suis fier.
Je sais pas, Christian, tu peux retrouver l'auteur.
C'est un comique, ça.
C'est un grand humoriste, évidemment.
Peut-être Coluche.
Coluche, évidemment. Un point pour Christian. Du coup, un point pour son équipe de losers.
4 losers.
Cinquième phrase, attention. Tout est encore possible. Donc, c'est une traduction de chansons anglo-saxonnes. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants.
Bravo, David.
Un petit point pour David, on ne l'oublie pas.
Il
bravo,
fait, David.
Il est vigoureux, le garçon.
Je suis vieux, surtout.
Ah non, parce que je l'avais.
Tu l'avais, mais au bout de la langue. Et ça ne suffit pas, des fois, tu sais, Laura.
Ça ne suffit pas.
Il faut aller plus loin.
Sixième phrase. Le jour où on mettra des cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Bravo, c'est Audiard et le film.
Alors le film, je sais pas.
Et il faut trouver le titre du film.
C'est pas les Tontons Flingueurs ?
Non, pas du tout. C'est un film de 68. Un film de Georges Lautner. Qui a fait évidemment les Tontons Flingueurs, le Guignolo, Flic ou Voyou.
Un ami, d'ailleurs.
Ouais.
Grassois, d'ailleurs.
Oui.
Aussi. Allez, le titre du film, Sinon, ça sera un demi-point, Christian, pour toi.
Ça me rappelle.
Est-ce que tu souhaites avoir un point en entier ?
Est-ce que tu as tourné à grâce le film ou pas ?
Non, pas du tout. Allez, on y va, on trouve. C'est le film Le Pacha, oui, à celle qui regarde sur son téléphone portable, évidemment. Donc, un demi-point pour Christian, on est okay. Sympa.
Le temps de
tu peux rappeler les scores, Laura?
Oui.
Qui va sortir sa calculette comme chaque mois pour calculer 3 malheureux points.
3 pour David et 3 pour les losers, du coup.
Tout est possible, donc parfaite égalité dans ce jeu entre David et les losers. 7e citation, c'est celle d'un homme politique. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Excellente, hein, excellente phrase.
Elle est récente.
Ah ouais, elle est récente. Oui.
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
Non.
Je l'ai vu sur
c'est un homme politique qui a gagné, qui a reçu le prix de l'humour politique pour cette punchline de 2022.
Oui, donc, elle est récente.
Assez récent.
Alors, c'est un homme politique qui est à la tête d'un parti.
Bayrou.
Non, qui est d'ailleurs au demeurant fort sympathique.
Fort sympathique.
Fort sympathique.
Ça arrive pas beaucoup.
Allez, balancez des noms comme ça. Il n'y a pas 36 000. Hein, de...
Ah, c'est le Bélatar.
Si, si, il y en a quand même.
Hollande, il a sorti quelques petites punchlines qui sont sympas. Mais...
De Lyon, là, de Républicain, non?
Non, ah, on n'est pas très très loin quand même. Hein. Tu repars un tout petit peu sur la droite. Et tu risques de trouver.
Un socialiste.
Non, c'est pas un socialiste.
Non.
Ah, c'est le communiste.
Oui,
c'est...
ça se finit en iste, hein, de toute façon.
Oui, exactement.
C'est absolument.
Fort.
Le nom?
C'est fort. Non,
socialiste, non,
c'est socialiste fort.
Non.
Ah, comment il s'appelle?
Secrétaire national du Parti communiste français.
Oui. C'est beaucoup.
Apparemment, le nom ne dit rien à personne. Fabien Roussel, voilà, tant Roussel. Pis, c'est un zéro pointé pour tout le monde.
J'ai oublié sa tête, mais.
Fabien Roussel. Oui, mais ça compte pas de voir la tête dans le jeu.
On est mauvais.
C'est comme la
on est toujours à 3 partout dans ce jeu. Maintenant, ensuite, pour la 8e, c'est une réplique de film célèbre. Tu vas apprendre à dire bonjour, c'est la seule chose la plus importante dans la vie. Et si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. C'est un...
C'est Belmondo.
Oui,
c'est
avec Richard Anconina.
Justement.
C'est un dialogue célèbre. Avec quel film Lyon,
je sais plus.
Le titre du film.
Je ne l'ai plus. C'est...
Oh là là. Si on a perdu
le film de Claude Lelouch, 1988. Qui est extrêmement connu.
Qui est derrière d'un enfant gâté.
Absolument, bravo. 4-3 pour David qui prend la tête. Qui prend la tête du concours.
Ah, ouais, franchement étonné.
Alors, il reste une 9e question. Alors là, tout peut arriver. Donc, soit David confirme sa victoire, soit c'est l'égalité parfaite. Et on se retrouvera le mois prochain pour départager à nouveau les deux équipes.
On va lui enlever ses béquilles.
Thierry, la prochaine fois, je joue dans ton équipe.
Si tu veux. Alors, c'est une chanson.
Tout le monde.
C'est les paroles d'une chanson. Alors, tu danses le monde, musique américaine, la cadence du funk, au plus haut t'emmène, le tempo en délire, si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut.
C'est
une chanson à texte, hein, vraiment, là on est vraiment dans...
C'est une tenue de soirée.
Non.
Georges Brassens.
C'est pas tenue de soirée, c'est presque ça.
C'est le duo.
C'est pas tenue. Oui, c'est le duo.
Oui, oui.
Tu l'as toi aussi, il faut juste remplacer le premier mot. C'est pas tenue de soirée.
Début de soirée.
Et donc, les résultats, Laura?
Eh bien donc, on se retrouve le mois prochain pour...
excusez-moi, mais on a marqué un demi-point tout à l'heure.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, tu vois, c'est le demi-point de Christian qui fait toute la différence.
Mais non, au moins le demi-point.
On l'a en moins.
Non plus.
Donc, comme je dis toujours, gloire au vainqueur, honneur au vaincu. Bravo.
Mais on l'a en moins.
On arrive du coup au terme de cette émission. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu de plaisir à vous distraire. Je voudrais remercier évidemment notre invité de ce soir, Christian, ainsi que les Ulu Berlu qui m'accompagnent. Un petit mot, Christian, vite fait, rapidement.
Ben, je reviens le mois prochain.
Mais juste pour le jeu du Kiki a dit quoi, on fait tout.
Tout. On reprend. Il y a tellement de choses à nous dire et à nous apprendre. Franchement, ça sera avec grand plaisir.
C'est vrai. Allez, on remercie bien évidemment nos fidèles auditeurs, auditrices et tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. On vous souhaite une excellente fin de soirée. On se donne rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle émission Les Copains d'abord.
Merci
d'ici
beaucoup.
Là, prenez bien soin de vous. On vous embrasse.
Bonne soirée.
À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.
C'était Les Copains d'abord, présenté par Thierry. Réalisé par Nancy Zottier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôtedazur.fr.